ton avis, Bourg-en-Bresse en 2050, ça ressemblera à quoi ?
Tu crois qu'on entendra toujours le chant des oiseaux ?
Aurais-je trop chaud dans mon appartement l'été ?
Tu penses qu'on pourra faire pousser des légumes sur le toit ?
Est-ce que je me sentirai à ma place dans cette ville ?
Est-ce qu'on sera solidaires entre nous ?
Quand on pense à la ville du futur, on se pose plein de questions.
Et toi, t'en penses quoi ?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Marine et nous sommes ravis de vous retrouver sur les antennes de Radio B pour ce deuxième épisode de notre émission « Notre ville, regard vers le futur ». Alors si vous nous avez suivis dans le premier épisode, on a partagé nos visions de Bourg-en-Bresse en 2050. On a fait référence à Climadiac Commune, un site de Météo France qui permet de savoir à quoi Bourg-en-Bresse devra s'adapter dans le futur. Voilà, on a évoqué ensemble des théories, des enquêtes et des biais psychologiques que l'on peut dépasser. Donc pour ceux qui ont raté le premier épisode, rendez-vous sur le site de Radio B. Vous écoutez Notre ville, regard vers le futur sur Radio B. Aujourd'hui, nous allons explorer le concept d'économie circulaire et comprendre ensemble comment la ville peut être le terreau fertile du coup à cette alternative qui nous paraît désirable.
Bonjour, moi c'est Marie et dans nos locaux à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté à Bourg-en-Bresse, on travaille dans un quartier qui est en pleine mutation urbaine. C'est entre le Champ de Foire et le boulevard Joliot-Curie. Et du coup, notre paysage direct, il se transforme petit à petit au rythme des travaux. Alors forcément, on s'est posé la question, mais qu'ont-il fait des déchets des anciens bâtiments qui ont été détruits ?
Alors, une partie des déchets a été concassée et utilisée pour le remblai. Et puis, le reste a été trié et envoyé en déchetterie. Pour le coup, beaucoup de matériel type des portes, des éviers ont été récupérés afin d'être utilisés pour d'autres futurs bâtiments.
Ok, bah ça c'est super chouette parce que moi, en faisant des recherches, en fait, je suis tombée sur un chiffre qui m'a vraiment marquée. C'est que chaque année, dans le secteur du BTP, on produit environ 250 millions de tonnes de déchets. Et ça, ça représente 70% de la production totale de déchets en France. Alors que dans le BTP, justement, il y a seulement 1% de ces déchets qui sont recyclés.
Ouais, c'est vraiment très peu. Et puis en plus, le recyclage, c'est bien, on en parle beaucoup. Pour notre ville du futur, dans la perspective de réduction des déchets, c'est vraiment une des dernières étapes de la boucle, justement, de l'économie circulaire dont on va parler ensemble. C'est vraiment l'élément en fin de chaîne, le recyclage. Et donc, avant ça, y a plein d'étapes et c'est tous ces mécanismes qu'on va retrouver ensemble aujourd'hui, qu'on va étudier dans l'économie circulaire.
Et du coup, comment tu définis l'économie circulaire, toi ?
Du coup, il y a plein de définitions. On pourrait dire ensemble que l'économie circulaire, c'est un modèle qui vise avant tout en fait, à réduire la surconsommation de ressources naturelles, donc la production de déchets actuels, la pollution, la destruction de la biosphère, pour vraiment penser une économie plus résiliente et plus durable. Et puis, du coup, cette réduction, elle va passer notamment par la réutilisation des ressources, des déchets, des produits. Et donc, en fait, le but, c'est vraiment d'avoir une réutilisation à l'infini, quoi.
Oui, en fait, du coup, c'est un système où les déchets deviennent des ressources. Et au-delà de la gestion des déchets, l'économie circulaire, elle couvre aussi d'autres thématiques, comme l'approvisionnement durable, c'est-à-dire le fait de choisir des matières premières en fonction de l'impact environnemental qu'ils vont avoir, c'est-à-dire un faible impact. On a aussi l'éco-conception, qui est le fait de prendre en compte l'impact environnemental sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit, depuis sa fabrication jusqu'à sa fin de vie. Et on a aussi l'allongement de la durée de vie des produits. Donc au lieu de jeter, on va plutôt essayer de réparer un produit ou de le réemployer pour justement lui donner une seconde vie. Et ces différentes méthodes, elles permettent notamment de lutter contre la surconsommation ou l'obsolescence programmée.
Carrément. Et puis cette économie circulaire, elle vient vraiment en opposition à un système d'économie linéaire. Donc économie linéaire, quand en fait, on produit, on consomme et on jette sans se préoccuper de toutes les conséquences qu'il y a en amont. Du coup, en amont de la production, on a l'extraction et en aval, on a la pollution, la destruction de la biosphère à la suite du fait d'avoir jeté.
Et peut-être qu'on peut partager deux ou trois données chiffrées qui nous alertent sur le fait qu'une autre économie est nécessaire, justement.
Oui, alors moi, un des chiffres qui me parle bien, c'est qu'en moyenne, il faudrait 2,9 planètes si tout le monde consommait comme un Français. Et du coup, vous avez des sites en fait, sur Internet qui permettent de calculer justement l'empreinte carbone individuellement, comme que vous retrouvez par exemple sur Internet, qui s'appelle « Nos gestes climat ».
Ok, ça c'est intéressant. Et moi en France, je sais qu'on produit 4,6 tonnes de déchets par an et par habitant. Donc c'est énorme.
Et puis voilà, il y a aussi un chiffre de l'OCDE qui nous alerte, qui dit justement que la consommation de matières premières, si on continue dans cette direction, risque de doubler. Donc voilà, on n'est pas du tout dans cette économie de justement essayer de réduire notre surconsommation de matières premières utilisées pour justement faire marcher notre économie actuelle, quoi.
Et il y a aussi un concept qui est très évocateur, c'est le jour du dépassement. En fait, c'est un jour qui symbolise la date à compter de laquelle, justement, l'humanité a consommé l'ensemble des ressources que la planète peut normalement régénérer en un an. Et cette année, c'est au 1er août qu'on avait déjà consommé toutes les ressources que la planète produit en un an. Donc, en fait, on vit à crédit, en quelque sorte. Mais maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on met cette économie circulaire en place pour 2050 ?
Déjà, on peut dire qu'on a un enjeu de relocaliser ce qui peut l'être. Donc, que ce soit nos industries ou notre alimentation. Cet enjeu, il est porté notamment par le mouvement des villes en transition. C'est un mouvement qui a été initié en Angleterre par Rob Hopkins. Peut-être que vous en avez entendu parler, il a inspiré plus de 250 communes dans plein de pays, vraiment 15 pays différents. Et par exemple, en France, à Ungersheim, une petite ville d'Alsace, les élus ou la commune et des structures, des associations, des habitants ont souhaité améliorer l'autonomie alimentaire de la ville. Et donc, ça peut être un exemple inspirant. Par exemple, ils ont créé une filière agroalimentaire qu'ils ont dénommée de la graine à l'assiette. Et donc, ils ont racheté une exploitation maraîchère de 8 hectares qui emploie actuellement une trentaine de personnes et qui produit 300 paniers hebdomadaires, qui approvisionnent la cantine scolaire. Et puis, ils peuvent aussi confectionner des produits qui sont livrés pour d'autres écoles, tout en mettant en place également une conserverie pour transformer tous les légumes restants. Donc voilà, c'est vraiment des exemples comme ça qui peuvent nous inspirer pour notre ville du futur.
Génial. Et moi, j'avais aussi envie de vous partager un outil qu'on peut concrètement utiliser, que ce soit à l'échelle individuelle comme à l'échelle d'une entreprise ou d'une structure. C'est la règle des 5 R, en fait, qui peut justement nous aider à mettre en place cette économie circulaire. Donc les 5 R, ça consiste en une méthode. Le premier R, d'abord, c'est refuser. Donc refuser un produit dont on n'a pas forcément besoin pour entrer dans une démarche de sobriété et de consommer moins, en fait. Le deuxième R, c'est réduire. Donc, ça va être réduire les quantités, réduire le fait d'acheter toujours plus. Et ça permet d'éviter le gaspillage. Ensuite, le troisième, c'est le R sur lequel on va se focaliser. C'est plutôt tout ce qui est du réemploi. Réemployer, réparer, ça peut être aussi acheter d'occasion ou louer. Et ensuite, les deux derniers, c'est recycler et rendre à la terre ou composter.
Alors, tu nous parlais de la démarche du R comme réparer, réemployer. Localement, il y a des structures de l'économie sociale et solidaire qui se sont créées et qui continuent d'œuvrer sur Bourg-en-Bresse et ses alentours dans cette démarche-là. On a par exemple, pour être très concret, la réparation de vélos avec la recyclette à Bourg-en-Bresse. On a des ressourceries telles que Tremplin, qui collectent du mobilier, des vêtements donnés par les entreprises et les habitants, qui les trient, les réparent et les revendent. On a également Micronov, qui donne une seconde vie au matériel informatique. Et puis on a, peut-être que vous n'en avez pas encore entendu parler, une matériothèque, la première de l'un, qui s'appelle Serestia dans le pays de Gex, et où justement le but c'est de donner une seconde vie aux matériaux issus du bâtiment, pour qu'ils soient réutilisés. Donc le soutien et la multiplication de ces initiatives est souhaitable pour notre ville du futur, car ces structures lient économie circulaire et projet social, souvent avec des emplois en insertion aussi à la clé.
Et du coup, cette économie du réemploi, on souhaiterait vraiment qu'elle se généralise à tous les secteurs d'activité. Et aujourd'hui, en tout cas, il y a de plus en plus de structures qui innovent et qui tentent aussi de casser l'image que peut avoir justement le fait d'acheter d'occasion. Par exemple, il y a Abracadabric qui a créé une boutique de revente de jeux pour enfants. On a aussi des structures comme Action Ricochet qui sont dans l'Ain, qui permettent en fait de penser l'aménagement d'une entreprise avec du mobilier réutilisé. Mais là, on parle de structures locales, mais il y a aussi des très grandes entreprises qui sont au cœur de l'économie circulaire, comme par exemple Back Market, qui réemploie et qui revend du matériel informatique d'occasion. Et par exemple, en tout cas pour être concret, un téléphone reconditionné, il permet d'éviter l'extraction de plus de 80 kg de matières premières et l'émission du coup de 25 kg de gaz à effet de serre par an.
C'est un chouette exemple. Et puis du coup, dans l'économie circulaire, on peut aussi penser la manière dont on échange. Et on peut aussi échanger et consommer en dehors d'un système monétaire. Par exemple, avec le troc. Ici, localement, on a le sel bressant, le système d'échange local, qui permet l'échange de services, de savoirs ou de biens entre les habitants. Et puis, on peut même aussi avoir le don, qui est très présent encore dans notre société. Et puis, on a un exemple aussi avec l'atelier éco-citoyen à Bourg-en-Bresse. Voilà, on a aussi des outils tech, comme celle créée ici par le Repère, qui défend un des principes de l'économie circulaire, qui est aussi l'économie de la fonctionnalité. Donc, où on privilégie l'usage à la possession. On n'est pas obligé d'avoir peut-être tous ces outils. Et le fait de mutualiser ça, ça fait partie de l'économie de la fonctionnalité.
Et ça me fait venir une question du coup. Est-ce qu'il faudra du coup continuer à produire du neuf pour alimenter justement ces structures du réemploi ?
Alors ce qu'on peut se dire, c'est qu'au vu de tout ce qui a été produit et vu la surconsommation des 10 dernières années, la quantité d'objets disponibles est largement suffisante. Mais avant tout, ce qu'on s'est dit avec Marie, c'est qu'il faut penser sobriété. Le premier R, c'est de refuser, comme elle vous l'a dit, que ce soit l'achat d'un objet ou tout autre. Se demander si on a vraiment besoin de cet énième objet. Parce que malgré tout, on aurait tort de l'oublier, le réemploi, le recyclage, ça demande tout de même de l'énergie. Donc l'énergie qui est produite soit avec des énergies fossiles, soit renouvelables.
Ouais, carrément. Et moi, j'avais aussi envie de vous partager un biais qui est connu en écologie et aussi en économie. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Par exemple, quand des industriels ils vont développer des technologies plus efficientes d'un point de vue énergétique, il y a un effet rebond quand ce changement, au lieu de justement entraîner des économies d'énergie, il va plutôt aboutir à une surconsommation du produit et donc une surconsommation des ressources qui ont été nécessaires pour la produire. Donc, je peux vous donner quelques exemples pour que ce soit plus concret. Donc, les moteurs de voitures, par exemple, ils n'ont jamais été aussi performants qu'aujourd'hui. Mais pour autant, on a de plus en plus de véhicules, on fait des trajets qui sont beaucoup plus longs et en plus, les voitures sont beaucoup plus lourdes, en tout cas pour certaines. Les technologies numériques, actuellement, elles sont moins énergivores parce qu'on a des meilleures batteries, il y a un meilleur débit. Mais pour autant, on utilise tellement nos téléphones avec les applications, les photos qui sont stockées, toutes ces choses-là, qu'au final, l'effet, il est inverse. Et un dernier exemple d'un effet rebond indirect, on a par exemple les personnes, les citoyens qui vont faire isoler leur maison, ce qui est très bien pour la planète et pour eux. Donc d'un côté, ils vont faire des économies, mais de l'autre côté, ils vont l'investir dans l'achat de biens ou la consommation de voyages, par exemple, ce qui sera tout aussi polluant. Et au final, le gain écologique qu'on fait d'un côté, il devient une perte de l'autre.
Merci pour cette explication et ces exemples concrets où on voit que du coup, en fait, on doit être vigilant à cet effet rebond aussi dans nos démarches, dans nos feuilles d'action sur l'économie et l'écologie. Et puis, on parle beaucoup de l'échelle individuelle. Or, les entreprises et les institutions, elles ont aussi une grande part de responsabilité. Alors, qu'est-ce qui existe en France sur l'économie circulaire ? Il y a 2 ans, au niveau national, il y a eu la France qui a impulsé la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, l'AGEC. L'objectif, sortir du plastique jetable d'ici 2040, lutter contre le gaspillage alimentaire et l'obsolescence programmée dont on vous en a parlé tout à l'heure. Donc par exemple, il y a eu des initiatives comme le bonus réparation qui en a découlé et qui permet la prise en charge de la réparation d'un produit chez un réparateur labellisé. Pour le moment, on ne va pas se mentir, le bilan reste mitigé. Pour vous donner un exemple, à Bourg-en-Bresse, sur tout ce qui est vestimentaire, il n'y a qu'une structure qui est labellisée dans ce bonus réparation. Donc, il faut vraiment des réglementations qui sont beaucoup plus engageantes. Beaucoup d'effets pervers découlent d'une économie, comme c'est actuellement, qui est basée sur la recherche permanente de la croissance. Faudrait certainement pour notre ville du futur, à Bourg-en-Bresse, un changement de paradigme. Véritablement produire moins et consommer moins, consommer mieux et se re-questionner sur nos besoins réels.
Oui, et du coup, dans cet esprit, justement, les pays scandinaves ont mis en place une réelle stratégie pour inciter au développement de l'économie circulaire. Donc, il y a des gouvernements, par exemple, qui ont mis en place des réglementations très fortes avec des incitations fiscales pour les structures qui réemploient et recyclent leurs déchets. Il y a aussi un système de consigne et de collecte des bouteilles en verre et des bouteilles en plastique, ou encore des solutions de revalorisation des déchets organiques en biogaz ou en engrais. Et ça, c'est vraiment mis en place à grande échelle.
Super.
Et surtout, ils sensibilisent justement à l'adoption de ces comportements plus sobres, avec des campagnes fortes de sensibilisation. Et ça se passe dès le plus jeune âge à l'école. Et maintenant qu'on sait tout ça, comment justement on peut s'inspirer de pratiques d'économie circulaire pour notre ville du futur à Bourg-en-Bresse ?
Déjà, il y a plein d'initiatives qui existent déjà, qu'on peut retrouver sur le réseau des villes en transition. Voilà, que ce soit sur l'énergie, l'habitat, la participation citoyenne, plus de 2000 initiatives sont répertoriées, donc il y a de quoi nous inspirer. Et puis voilà, il y a une plateforme aussi dédiée à l'économie circulaire, economiecirculaire.org, qui recense de nouvelles ressources, de nombreuses ressources, des acteurs, des actualités sur le sujet. Donc voilà, vous nous partagerez, hein, vous auditeurs et auditrices, les initiatives peut-être qui font sens pour vous dans notre ville du futur, quoi.
Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on vous a parlé de pas mal de structures de l'économie sociale et solidaire, que ce soit des associations, des coopératives ou voilà, d'autres exemples qui œuvrent vraiment pour la mise en place de cette économie circulaire. Alors si justement vous voulez rencontrer ces structures, échanger avec eux, ils seront présents le 20 novembre à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté à l'occasion du Forum des Transitions Écologiques, mais aussi tout au long du mois de l'économie sociale et solidaire, en novembre, où on recense un certain nombre d'événements sur les sujets d'économie circulaire ou d'économie sociale et solidaire au sens large.
Alors ici, on aime bien l'adage « c'est en marchant que l'on trouve le chemin ». Alors on va continuer de poursuivre nos initiatives pour une économie décarbonée, locale et plus solidaire. Alors à bientôt.
À bientôt.
À ton avis, Bourg-en-Bresse en 2050, ça ressemblera à quoi ?
Tu crois qu'on entendra toujours le chant des oiseaux ?
Aurais-je trop chaud dans mon appartement l'été ?
Tu penses qu'on pourra faire pousser des légumes sur le toit ?
Est-ce que je me sentirai à ma place dans cette ville ?
Est-ce qu'on sera solidaires entre nous ?
Quand on pense à la ville du futur, on se pose plein de questions.
Et toi, t'en penses quoi ?